le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, on va parler de liberté d'expression, de rassemblement, d'association, de droit à la vie privée. Ces droits fondamentaux recouvrent des réalités très différentes, mais ils sont menacés partout, y compris près de chez nous, où, au nom de la sécurité, des lois et des pratiques restreignent les libertés publiques. Tous les jours, des citoyens, des citoyennes, des journalistes ou des défenseurs et défenseuses des droits humains sont surveillés, arrêtés, battus ou menacés, simplement pour avoir exprimé des idées ou un point de vue, pour avoir manifesté ou pour avoir cherché ou diffusé des informations. Aucune région du monde n'est épargnée. En Arabie Saoudite, Raif Badawi purge une peine de 10 ans de prison, par exemple, pour avoir ouvert un site internet dédié au débat politique dans un royaume verrouillé. En Russie, s'exprimer librement, c'est mettre sa liberté et sa vie en danger. Les restrictions ne se limitent pas au régime autoritaire. Partout, on observe des reculs de ces libertés, souvent sacrifiées au nom de la sécurité, ou alors des traditions nationales ou religieuses, ou de la lutte contre le terrorisme. C'est par exemple la raison la préférée des Américains. La liberté d'expression est pourtant un droit essentiel qu'il est dangereux de suspendre ou de limiter. Elle permet normalement aux sociétés et aux individus de se développer et de faire valoir d'autres droits. C'est donc un levier pour promouvoir et défendre l'ensemble des droits humains. La limiter, c'est attaquer et menacer l'ensemble des droits humains. Les révélations d'Edward Snowden en juin 2013 ont permis au monde de découvrir l'ampleur des programmes de surveillance en masse des communications aux États-Unis et au Royaume-Uni également. Malgré le scandale qui a été provoqué, les techniques de surveillance illégale, qu'elles soient de masse ou ciblées, sont de plus en plus utilisées par les États et les entreprises pour espionner et intimider les voix qu'elles jugent contraires à leurs intérêts. Ces technologies de surveillance, sans contrôle suffisant, rendent de plus en plus illusoire le droit à la vie privée dans de nombreuses régions du monde. Elles font aussi peser une véritable épée de Damoclès sur les capacités d'expression et d'organisation des sociétés civiles, engendrant peur, autocensure, campagnes de harcèlement et de dénigrement. Parce que la liberté d'expression permet de vivre librement et de faire valoir l'ensemble des droits humains, Amnesty International fait de sa défense un combat prioritaire. On a tous un rôle à jouer, mais les États sont les premiers à devoir défendre ce droit. Les gouvernements doivent faire respecter le droit de s'exprimer ou de s'associer librement. Ils doivent agir pour abroger toutes les lois qui restreignent ces libertés et prendre des mesures pour les garantir. Les gouvernements doivent également renoncer au programme de surveillance illégale. Assurer la sécurité des citoyens, c'est un devoir effectivement, mais le faire au détriment des droits est une impasse. Les gouvernements doivent enfin immédiatement libérer, et ce sans condition, toutes les personnes qui sont emprisonnées pour avoir exprimé pacifiquement leurs idées ou leurs opinions. Ça, ce sont les trois éléments clés pour lesquels on se bat à Amnesty International concernant la liberté d'expression. Étant donné qu'on est en pleine élection présidentielle, je vais parler un petit peu du droit de manifester qui a été assez malmené pendant le dernier mandat. Il y a eu du gaz lacrymogène en usage très excessif, des tirs de LBD, des arrestations abusives. Oui, le droit de manifester a été malmené en France ces dernières années. Mais des solutions existent à l'approche donc de ce nouveau mandat. Il est nécessaire de justement le rappeler. Manifester, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental qui a été mis à mal depuis plusieurs années en France. Des lois criminalisant les manifestants et manifestantes se sont accumulées et les pratiques de maintien de l'ordre violent se sont installées. Pourtant, les solutions, encore une fois, existent. Les autorités peuvent engager des réformes pour défendre le droit de manifester. Il est important de le rappeler, une grande partie de nos droits a été obtenue grâce à la manifestation. Donc protéger ce droit, c'est essentiel. Les atteintes au droit de manifester en France remontent à plusieurs années. En mai 2017, Amnesty International, nous, on avait publié un rapport pour dénoncer justement le détournement de l'état d'urgence en 2015, dans le but d'interdire des manifestations ou assigner des militants et militantes à résidence. On avait aussi alerté sur des cas d'usage disproportionné et arbitraire de la force contre des manifestants et des manifestantes, mais aussi contre des journalistes. Alors la situation s'est-elle améliorée sous le mandat d'Emmanuel Macron? Évidemment que non. Un maintien de l'ordre qui ne respecte pas les droits humains, voilà ce qu'Emmanuel Macron a engendré au final, que ce soit dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes, des lycéens ou des marches contre les réformes des retraites ou pour le climat. Amnesty International a alerté plusieurs fois, le maintien de l'ordre en France ne respecte absolument pas les droits humains. Dans plusieurs manifestations, des armes susceptibles de mutiler ont été utilisées, la technique de la NAS a été déployée de façon abusive et les forces de l'ordre ont fait un usage excessif de la force. Résultat, des milliers de blessés, des dizaines de manifestants et manifestantes mutilés, des fractures multiples, bref, un bilan qui est assez inquiétant et qui alerte jusqu'aux institutions internationales. Des rapporteurs spéciaux des Nations Unies et la commissaire des droits de l'homme au Conseil de l'Europe ont épinglé la France à ce sujet. On a aussi documenté comment entre 2018 et 2019, il y a eu des milliers de manifestants et manifestantes pacifiques qui ont été arrêtés, qui ont été placés en garde à vue et parfois poursuivis sur la base de lois un peu trop vagues, ou alors qui étaient carrément contraires au droit international. Des manifestants, des manifestantes, des journalistes qui couvrent des rassemblements, des observateurs juste des droits humains, ou des secouristes ont déjà été pris pour cible par des arrestations arbitraires. Ensuite, il y a la loi anti-casseurs. En avril 2019, c'est la loi donc dite anti-casseurs. Elle a été adoptée en 2019 et contrairement à son intitulé, en fait, cette loi, elle apporte pas vraiment quelque chose contre les casseurs. Elle protège pas vraiment les manifestants et les manifestantes pacifiques. En fait, elle a plus tendance à ouvrir en grand la porte de l'arbitraire. Les manifestants et les manifestantes pacifiques qui souhaitent protéger leur visage des effets des gaz lacrymogènes, par exemple, ils risquent d'être exposés à des arrestations et des condamnations arbitraires à cause de cette loi. Et ça pose un gros problème. Parce que c'est juste pour se protéger à la base, c'est pas pour se cacher. Et le gouvernement a persisté dans ce sens. En septembre 2020, il publiait un schéma national du maintien de l'ordre proposant quelques annonces d'amélioration. Cependant, il ne revenait pas fondamentalement sur les stratégies de maintien de l'ordre en place. Donc c'est une occasion qui a été manquée. Et en 2021, les arrestations arbitraires se sont poursuivies. Au-delà du mouvement des Gilets jaunes, les arrestations se sont poursuivies lors d'une marche contre la loi dite sécurité globale. On a recensé, nous, 142 interpellations, dont des dizaines d'arrestations qui étaient totalement arbitraires. Près de 80% des interpellés seront relâchés sans poursuite, mais après de longues heures de privation de liberté. Une nouvelle inquiétude, c'est les drones de surveillance. Dernier exemple d'atteinte au droit de manifester, c'est le déploiement de ces drones de surveillance au-dessus des cortèges. Alors d'abord mis en œuvre illégalement avant que le gouvernement n'introduise une loi pour l'encadrer. Et le problème, c'est que c'est un cadre qui est très large, alors même que le fait de se savoir filmer, ça peut dissuader des gens d'aller manifester, et donc ça entrave nécessairement ce droit. Le bilan, bon, et pas du tout celui qui était espéré, surtout pour une organisation comme la nôtre, alors que le droit de manifester est un des droits fondamentaux, il s'est vraiment beaucoup détérioré en France, mais heureusement, des solutions existent. Alors, c'est des solutions que nous, on propose à Amnesty International, d'abord réformer le maintien de l'ordre, et ce sont des solutions qu'on aimerait proposer au nouveau gouvernement qui est en place. C'est d'abord... dans cette réforme du maintien de l'ordre, savoir que les grenades susceptibles de mutiler devraient être interdites et l'usage des LBD 40 devrait être suspendu. D'autre part, des instructions très claires doivent être transmises aux forces de l'ordre sur les conditions de l'usage de la force, qui doit rester strictement légale, légitime, nécessaire et proportionnée. Il doit aussi avoir des enquêtes qui soient impartiales, indépendantes et efficaces, qui soient déclenchées pour tous les cas d'allégation d'usage illégal de la force par les forces de l'ordre, parce que l'impunité, évidemment, favorise la répétition de ces violations. Le maintien de l'ordre doit être complètement réformé pour aller vers des stratégies de dialogue et de désescalade, afin de mieux respecter les droits humains. Deuxième conseil qu'on aura à donner à ce nouveau gouvernement, c'est de mettre fin aux arrestations abusives de manifestants et de manifestantes. Abroger d'abord toutes les lois qui violent le droit international et entravent le droit de manifester pacifiquement. amender les éléments trop flous de notre législation pour s'assurer qu'elle n'est pas utilisée arbitrairement pour limiter le droit de chacun et chacune à manifester pacifiquement, et de garantir que les mesures visant à protéger la santé publique ne génèrent pas des restrictions disproportionnées au droit de manifester pacifiquement. Enfin, le dernier conseil qu'on a à donner à ce nouveau gouvernement, c'est de ne pas tendre vers un système de surveillance, c'est-à-dire engager une révision de la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure pour empêcher que les drones puissent être utilisés de manière aussi large pour surveiller des manifestations. Continuer sur les manifestations, droit de manifester qui est très difficile en ce moment en France. Il y a d'autres pays où c'est évidemment beaucoup plus grave, par exemple la Russie où des manifestants et des manifestantes anti-guerre sont arrêtés par milliers. Depuis le 24 février 2022, de nombreux Russes et de nombreuses Russes descendent dans la rue pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine. L'opposition à la guerre est réelle, mais les autorités veulent l'effacer. Les arrestations de manifestants et manifestantes se comptent par milliers. Un arsenal législatif renforcé les rend possibles. Plus de 15 400 manifestants et manifestantes pacifiques ont été arrêtés en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est un chiffre de l'ONG russe OVD Info. Et c'est un chiffre qui date de début avril. Les arrestations sont massives, immédiates, presque surréalistes. Pour la seule journée du 6 mars, 5000 personnes ont été arrêtées dans 69 villes russes. Les autorités russes montrent qu'elles sont prêtes à poursuivre en justice absolument n'importe qui, et ces poursuites constituent des violations flagrantes au droit à la liberté d'expression. Non à la guerre, c'est un des slogans qui a été scandé par les manifestants et les manifestantes de la place Rouge à Moscou, des places centrales de Saint-Pétersbourg, et des dizaines d'autres villes partout en Russie. À cette opposition à la guerre, la police répond par une vague d'arrestations arbitraires et souvent brutales. Même des enfants qui participent au rassemblement et aux manifestations ont été arrêtés. Plus de 100, selon toujours l'ONG OVD Info. Ces arrestations éclairent et à tout va n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire taire la contestation, étouffer le mouvement anti-guerre et tenter de le rendre inexistant. Les images des arrestations qui nous sont parvenues de la Russie sont très choquantes. Porter des ballons aux couleurs de l'Ukraine, par exemple, arrestation. Écrire « non à la guerre » dans de la neige, arrestation. Applaudir ou passer à côté d'une manifestation, arrestation. Détourner une pancarte en écrivant deux mots, qui est une référence au slogan « Niet Vojne » qui signifie « non à la guerre ». Ça, arrestation, pareil. Et tenir une pancarte blanche sans aucun message de protestation, c'est toujours arrestation immédiate. Les autorités ont lancé une véritable chasse aux sorcières en instrumentalisant le système judiciaire russe pour poursuivre des manifestants et des manifestantes anti-guerre. La répression, c'est pas une chose nouvelle en Russie non plus. Depuis plus de 15 ans, les autorités russes utilisent des lois de plus en plus restrictives pour réduire au silence toute dissidence. Avec la guerre en Ukraine, la répression elle s'est juste accélérée. Ces lois sont utilisées comme un outil de répression dans un contexte où les autorités russes entendent contrôler tout ce qui va être dit ou vu. Donc ça fait plus de 15 ans que c'est comme ça. C'est en 2004 que la Russie a commencé à déployer vraiment un arsenal législatif contre le droit de manifester, avec par exemple la loi fédérale sur les rassemblements. Et depuis 2014, cet arsenal législatif s'est encore endurci. Il y a une série d'amendements qui a vu le jour à ce moment-là, et leur application elle est de plus en plus restrictive. Alors concrètement, il y a quoi dans ces amendements ? D'abord le fait que les policiers utilisent des stratégies de plus en plus brutales pour faire taire les manifestants et les manifestantes. Les tribunaux infligent des peines de plus en plus sévères, de plus en plus lourdes. Les rassemblements sont quasiment interdits partout en ville. Au niveau fédéral, les manifestations, par exemple, ne peuvent pas avoir lieu à proximité d'un tribunal, d'une prison ou d'une résidence présidentielle ou encore de services d'urgence. Au niveau local, les manifestations ont été interdites à proximité d'établissements culturels, éducatifs, médicaux, de centres commerciaux ou même des stations de transport public. Et les rassemblements spontanés sont interdits partout. En notifiant les manifestations aux autorités, elles risquent fort d'être déplacées ou interdites de toute façon. Donc voilà, on peut faire des manifestations ou des rassemblements nulle part, ça restreint énormément le droit de manifester. Et le montant des amendes, il a explosé aussi. Il est passé de 2000 roubles, qui est environ 50-55 euros en 2012, à 300 000 roubles. Ça vaut 3000-3005, ça c'était en 2021. Le signe direct de l'accélération de la répression depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est le vote express, le 4 mars 2022, d'une nouvelle loi qui réprime les fausses informations, entre guillemets, sur les activités de l'armée russe en Ukraine. Fausses informations qui sont pas du tout fausses. Avec cette loi, les personnes qui, selon les autorités russes, propagent de fausses informations encourent jusqu'à 15 ans de prison. Un nouvel article a également été ajouté au code russe des infractions administratives pour sanctionner les, je cite, « actions publiques visant à discréditer les forces armées russes », donc typiquement les manifestations anti-guerre, ça en fait partie. Les citoyens et citoyennes russes qui s'opposent à la guerre s'exposent donc à des risques assez graves. Lorsqu'ils descendent dans la rue pour exiger la fin de la guerre, leur message représente un tel contraste avec la propagande de l'État qu'en fait, ils sont directement placés dans le collimateur des forces de sécurité. Ils s'exposent à des lourdes amendes, voire des détentions administratives, voire des poursuites pénales qui mènent à des procès iniques expédiés en quelques minutes généralement, et à des condamnations qui sont arbitraires et souvent très lourdes. Ils s'exposent aussi à des violences et à des actes de torture. Par exemple, on a des vidéos de des équipes d'Amnesty qui ont pu authentifier des vidéos qui montrent des manifestants pacifiques qui ont été brutalement frappés par la police avec des matraques, électrocutés avec des pistolets à décharge électrique, puis frappés, traînés au sol, soumis à plein d'autres mauvais traitements. Et ça, bah, c'est ce qu'on appelle de la torture, effectivement. Les autorités russes veulent instiller de la peur au sein de la population en muselant l'expression de toute opinion anti-guerre. Le Kremlin veut donner l'impression que la résistance n'existe pas, mais elle existe. Le mouvement anti-guerre en Russie se poursuit malgré l'adoption de restrictions draconiennes et malgré une violente réponse policière. Et parmi les manifestants et parmi la résistance, les féministes russes jouent un rôle très actif dans ce mouvement anti-guerre. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, il y a un mouvement féministe qui s'est créé, c'est le Feminist Anti-War Resistance, donc FAS. Ella Rosman, qui est l'une des rares figures publiques du mouvement, a expliqué l'objectif de la création de ce groupe. Je cite « Dès le début de la guerre, nous nous sommes rapidement organisés et avons lancé un appel déclarant que la guerre est contraire à tous les objectifs du mouvement féministe. » L'une des actions de FAS, ça a été de remplacer les étiquettes de prix des supermarchés par des slogans contre la guerre, par exemple. Comme toutes les voix anti-guerre, bah, les militantes ont subi de dures représailles. Selon le groupe, elles seraient au moins 100 à avoir été détenues, arrêtées, fouillées ou menacées par les autorités. Les stratégies répressives des autorités russes sont inquiétantes et évidemment inacceptables pour une organisation comme la nôtre et je l'espère pour la communauté internationale. Et on salue évidemment le courage de milliers de manifestants et manifestantes russes qui, malgré les risques encourus, osent s'exprimer pour dire non à la guerre. Et on est à leur côté, et aux côtés de celles et ceux qui se battent au quotidien pour plus de liberté, pour plus de justice et pour plus de paix. Amnesty International essaye vraiment d'encourager ce genre d'initiative, même si nous, nos bureaux, ils ont fermé à Moscou. On continue d'être quand même présents sur le terrain, évidemment, et les militants d'Amnesty International et militantes sont évidemment encore présents et présentes en Russie. Et soutenir ce genre d'initiative, ne serait-ce que moralement, c'est très important pour les personnes qui sont en train de mener ce combat réellement dans la vraie vie, parce que évidemment il faut du courage, il faut du moral pour aller descendre dans la rue pour dire non à la guerre alors qu'on sait qu'on va se faire casser la gueule par les flics. Donc c'est quelque chose qui est très important de continuer à soutenir le peuple russe dans cette épreuve-là. Vous pouvez le faire d'ailleurs à travers notre site amnestyinternational.fr, envoyer des messages de soutien aux manifestants et manifestantes russes. Vous pouvez aussi le faire sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important de montrer que la communauté internationale regarde et porte un jugement sur cette situation et encourage les initiatives de manifestation, même si c'est sûr c'est plus facile depuis la France, depuis ici, de dire « Ouais, bravo, vous faites des trucs formidables, vous luttez contre la guerre, vous faites des manifestations, alors que nous, on se fait Enfin, il n'y a pas vraiment d'impact sur nous, pas physique en tout cas, alors que pour eux et elles, c'est le cas. Mais il reste que ce genre d'encouragement reste très positif et important. Et surtout quand on voit ce qui se passe en Russie, moi j'aimerais pas que ça arrive chez nous, donc vous pouvez également, puisque vous serez sur le site d'Amnesty International pour soutenir les manifestants et manifestantes russes, vous pouvez aller signer des pétitions concernant la liberté d'expression et la liberté de manifestation en France pour encourager notre nouveau gouvernement à garantir le respect de ce droit-là. Sur ces mots, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.